Bienvenidos a este informativo de Radio France.
Paris Live with me, today's headlines.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde, première édition de l'année nouvelle. Ce soir, un studio féminin, tous mes voeux, mesdames, Hermine Roumilac de la rédaction chinoise.
Bonne année, Xinyan Hao.
Pour nous narrer les déboires du magnat démocrate de Hong Kong, Jimmy Lai, qui encourt la prison à vie pour atteinte à la sûreté nationale. Pour la rédaction en espagnol, Melissa Barra.
Buenas tardes y feliz año.
Vous nous parlerez des 30 ans de la révolution zapatiste au Mexique, alors que les groupes armés liés au trafic de drogue sèment la mort dans le pays. Et puis Lucia Mouziel de la rédaction brésilienne.
Buenas noches, un ótimo ano novo.
Pour les principaux enjeux à venir du Brésil. Bonne année à vous toutes et à vous tous qui nous écoutez fidèlement. Que 2024 vous soit la plus douce possible, en tout point à l'opposé de ce qu'inflige l'actualité. Dans le monde, cette nouvelle année sera marquée entre autres par des élections, autant de moments de grâce auxquels les peuples peuvent s'exprimer. Une élection est un moment privilégié de la démocratie. Comme cela fait déjà 4 ans que Joe Biden a été élu à la Maison-Blanche, il y aura un scrutin présidentiel en novembre aux États-Unis. Et il en sera beaucoup question, Lucia Mouziel, surtout si se joue le match retour avec ce nouvel affrontement entre Biden et Trump.
Tout à fait, et pour certains, c'est l'avenir même de la démocratie américaine qui sera en jeu, puisque deux États américains, le Colorado et le Maine, ont récemment déclaré que l'ex-président est inapte à participer aux primaires républicaines à cause de son implication dans l'insurrection du Capitole le 6 janvier 2021. Et ce, même s'il reste le favori pour les primaires du Parti républicain, c'est la course suprême américaine qui devra trancher l'impasse. Et sa décision s'appliquera sur l'ensemble du pays. Si tel sera vraiment l'affrontement qui se déroulera aux urnes en 2024, les électeurs américains devront choisir entre deux modèles bien différents, que ce soit sur l'économie, la géopolitique, les enjeux sociaux. Et dans un contexte mondial de plus en plus tendu, avec la guerre en Ukraine, mais aussi à Gaza, le monde retiendra sans doute son souffle à l'issue de ce vote.
Alors l'Amérique, ce n'est pas que les États-Unis, comme on en fait parfois l'amalgame, hein. C'est un continent. Et ce continent américain subira bien sûr l'influence de cela, ou l'inverse est également vrai.
C'est ça, oui, c'est ce que nous a expliqué un expert en Amérique latine, interviewé par notre correspondant en Argentine. Selon Patricio Navia, la stabilité politique dans des pays comme le Mexique, le Venezuela, pourra influencer le scrutin américain. Et cela car l'immigration est un des grands enjeux du vote aux États-Unis cette année. Si Donald Trump a de fortes chances de revenir au pouvoir, c'est en grande partie à cause de la perception d'échec de la politique migratoire de Joe Biden. Le Mexique, c'est le plus important allié historique des États-Unis dans la région, car la plupart des grandes vagues migratoires qui arrivent aux États-Unis passent par ce pays voisin. Donc, selon le niveau de collaboration ou pas du gouvernement mexicain pour contenir ce flux, il sera plus ou moins important. Cette fois, les deux candidates en lice à la présidentielle mexicaine semblent être pro-États-Unis, en continuité de la politique extérieure menée par le président actuel, López Obrador. Même en étant de gauche, il a établi une alliance prioritaire de son pays avec les États-Unis. On écoute donc le politologue Patricio Navia.
Creo que lo importante es que tanto la izquierda como la derecha en México están firmemente convencidas de que el futuro de México pasa por una relación con Estados Unidos.
Il dit que la gauche et la droite mexicaine sont convaincues que l'avenir du pays passe par une bonne relation avec les Américains, même si la gauche peut être critique du néolibéralisme américain, entre autres aspects. Cette relation reste largement prioritaire par rapport à tout le reste de l'Amérique latine.
Mélissa, les Mexicains donc, ont rendez-vous aux urnes en juin, et pour la première fois de son histoire, le Mexique pourrait avoir une femme à la tête du pays ?
C'est bien ça, Claudia Sheinbaum et Xochitl Gálvez, ce sont les deux visages de cette campagne, deux politiciennes au profil très différent. Gálvez est d'origine indigène, elle représente la coalition d'opposition à droite, et Sheinbaum est l'ancienne maire de Mexico, c'est la dauphine du président de gauche Andrés Manuel López Obrador, auprès de qui elle a fait ses armes. Écoutons ce qu'en pense Jimena Reyes, qui dirige le bureau des Amériques de la Fédération internationale des droits de l'homme.
Tiene una personalidad mucho más rigurosa, seguramente menos populista, menos...
Selon elle, on est face à un profil moins populiste que l'actuel président, avec un programme assez progressiste, mais qui déçoit par encore une manque d'une véritable politique de droit en termes de droits humains et de sécurité dans un pays qui enregistre 110 000 disparitions forcées.
Une problématique donc de sécurité, d'immigration également. L'immigration qui prendra sans doute de l'ampleur dans une autre campagne, on y revient, hein, c'est chez le voisin américain dont je parlais tout à l'heure.
Justement, on le voit déjà en ce début d'année, les Républicains cherchent à mettre la pression sur l'administration Biden et à mettre le projecteur sur sa politique migratoire qu'ils considèrent alarmante. Le secrétaire à la sécurité nationale, Alejandro Mayorkas, est sous la menace d'un impeachment. Alors, entre la migration, l'inflation, la guerre en Europe et au Proche-Orient, les sondages montrent un avantage de Donald Trump sur Joe Biden dans les 7 swing states, ces États qui peuvent faire basculer d'un côté comme de l'autre. Bien entendu, c'est tout le continent américain qui connaîtra les effets de ces choix-là.
Alors, pas moins de 9 pays latino-américains vont organiser des élections en 2024. Parmi ces élections, 6 présidentielles. C'est le cas au Venezuela, Mélissa, le gouvernement de Nicolas Maduro a rendu d'ailleurs inéligibles les candidats de l'opposition.
Dont la principale rivale du président, l'opposante historique de la droite, Maria Corina Machado. Elle a remporté haut la main la primaire qu'avait organisée en octobre l'opposition vénézuélienne. Alors officiellement, Nicolas Maduro ne sait pas encore s'il sera candidat à sa propre succession. D'ailleurs, il n'y a pas de date accordée pour la tenue du scrutin. Le gouvernement et l'opposition négocient depuis des mois en Norvège, mais le dialogue est au point mort, notamment à cause de l'inéligibilité qui pèse sur Maria Corina Machado. D'ailleurs, nous l'avons interviewée.
Mi inhabilitación es producto de que el régimen sabe que yo voy a derrotar a Maduro. Precisamente por eso hace este acto totalmente irrito.
Quel est le commentaire de Maria Corina Machado?
Alors pour elle, le régime a peur d'elle et de sa victoire. Elle a donc fait appel de la décision devant la Cour suprême et Washington a fait savoir que l'annulation des inéligibilités était une des conditions pour lever définitivement ces sanctions contre le Venezuela.
Lucia Mouzel, vous nous dites que Nicolas Maduro est certain de gagner ces élections et cela en partie grâce aux États-Unis. On y revient une fois de plus.
Finalement, bah oui, car au-delà du fait que Maduro contrôle, comme on voit, tous les mécanismes électoraux, et c'est pour cela qu'il est au pouvoir depuis bientôt 10 ans. L'immigration vénézuélienne vers les États-Unis est aussi perçue comme étant un problème pour les prétentions de réélection de Joe Biden. Cette fois, la tendance, c'est donc que le gouvernement américain fasse du profil bas à regard à ce qui se passe à Caracas. Il n'essayera pas vraiment d'embêter Nicolas Maduro en échange d'un peu de collaboration du côté migratoire. Je vous propose encore un extrait de Patricio Navia.
Estados Unidos está mucho más interesado en lograr que en Venezuela haya estabilidad más que en lograr que en Venezuela haya
democracia. J'ai compris qu'il disait qu'il y a quelque chose de très intéressant, mais quoi?
Il dit que dans ce contexte, pour Washington, il est bien plus important d'avoir de la stabilité au Venezuela que de la démocratie. Monsieur Navia explique que depuis que les États-Unis sont devenus exportateurs d'énergie, ils peuvent se passer du pétrole vénézuélien et cela a changé la cible des intérêts des États-Unis dans ses relations avec Caracas, c'est désormais l'immigration qui est au cœur. Le gouvernement actuel démocrate, donc, a tout intérêt à négocier avec Maduro en vue d'augmenter ses chances de victoire au scrutin de novembre.
Mélissa Barra, parlez-nous maintenant de ce qui va se passer au Salvador, et c'est dans un mois.
Un scrutin donc le 4 février, le Salvador est dans le radar de toutes les organisations qui s'intéressent de près ou de loin aux droits humains et à l'état de droit, car la démocratie y est en danger depuis l'arrivée au pouvoir du président Nayib Bukele. Alors celui-ci contrôle les institutions parlementaires et la justice, ultra populaire mais aussi très peu respectueux des droits fondamentaux. Bukele et son parti ont gagné le cœur des Salvadoriens en réprimant de manière violente les gangs qui sévissent depuis des années dans le pays. Il a reçu le feu vert pour une réélection alors que la Constitution interdisait jusque-là d'enchaîner 2 mandats consécutifs.
Alors comment il a réussi ce tour de passe-passe?
Eduardo Escobar, directeur de l'organisation de la société civile Acción Ciudadana, nous explique.
El presidente Bukele a utilizado a sus abogados que ha colocado como magistrados en la sala de lo constitucional.
Alors, qu'est-ce qu'il nous explique?
Il explique que la formule est simple. Il suffit de placer ses pions au sein de la Cour suprême pour réinterpréter le sens de la Constitution. Le Congrès qu'il contrôle a ensuite profité pour changer le nombre de parlementaires élus, reconfigurer les circonscriptions électorales pour assurer au parti Ideas Nuevas une large victoire.
Lucia Mouzel, de la rédaction brésilienne de RFI, je reviens vers vous parce que le Brésil, lui, n'aura pas d'élection présidentielle. présidentielle, mais aura des élections, ce sont des municipales. Et ce sera un premier test pour le président Lula depuis son retour au pouvoir il y a de cela quelques mois.
Oh bah oui, en effet, on verra à quel point le bolsonarisme, les partisans de l'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro, a encore de la force au Brésil, aussi bien que le trumpisme peut-être aux États-Unis. Une victoire de Trump donnerait sans aucun doute de l'impulsion aux héritiers de Bolsonaro au Brésil. Les prochaines présidentielles brésiliennes n'auront lieu qu'en 2026. Cette année, les Brésiliens iront aux urnes pour choisir des nouveaux maires et conseillers municipaux dans plus de 5500 villes. Le président de gauche, Lula, compte bien participer activement de la campagne pour donner un coup de pouce à ses alliés. Les grandes villes comme São Paulo, Rio de Janeiro ou encore Belo Horizonte seront dans le viseur, bien sûr, mais les résultats partout nous donneront une idée plus claire d'à quel point la polarisation politique reste forte ou pas autour de ces deux forces-là.
Alors justement, dans ces conditions, on se souvient que lors de son investiture, Lula avait promis de réconcilier la nation. Visiblement, on n'y est pas encore. Hein.
Bah, les sondages montrent que les choses ont très très peu changé. Si d'une part, Lula a beaucoup calmé le jeu en invitant énormément de centristes, voire des conservateurs, à faire partie de son gouvernement. D'autre part, il a beaucoup joué pour son propre camp, la gauche, y compris si nous observons le volet international. Les propos favorables de Lula vers le Vénézuélien Nicolas Maduro ont enflammé les partisans de l'extrême droite brésilienne. Au cours de l'année, Lula ne s'empêchait pas de commenter avec souvent beaucoup d'ironie chaque nouveau chapitre concernant l'avenir politique de Bolsonaro. Il n'a donc pas vraiment cherché à attirer vers lui l'électorat bolsonariste, au contraire, et c'est pour cela que la plupart des analystes politiques anticipent des élections municipales encore très polarisées.
Voilà pour ce tour des Amériques. Hermine Roumila, je ne vous ai pas oublié, hein, il y a aussi des élections en Asie. Celle de Taïwan est la première à retenir l'attention, elle est considérée comme l'une des plus importantes. Expliquez-nous.
Oui, surtout maintenant, les signaux inquiétants s'accumulent, sachant qu'à partir de 10 février, selon le calendrier lunaire chinois, ce sera le nouvel an et ce sera l'année du dragon. Donc avec toutes les charges symboliques de puissance et de succès pour les Chinois. Et le président chinois Xi Jinping n'a rien loupé de tout ça. Il a clamé lors de son discours de nouvel an que la Chine sera sûrement réunifiée et que, je cite encore, tous les Chinois des deux côtés du détroit de Taïwan devraient être liés par un but commun et partager la gloire de renouveau de la nation chinoise. Donc au moment où beaucoup de signes de la crise économique et de politique apparaissent à Pékin, le leader chinois n'hésite pas à user et à abuser de la carte de nationaliste qui peut faire peur à l'extérieur et légitimer son pouvoir à l'intérieur de la Chine.
C'est un grand classique. Hein. Mm. C'est aussi une manière de faire pression sur les électeurs taïwanais.
Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on fait très attention à cette élection. En effet, le 13 janvier aura lieu les élections présidentielles et les législatives en même temps où s'affronte le vice-président sortant William Lai. Donc, il est considéré comme un indépendantiste et les deux autres candidats, donc l'un du parti nationaliste Kuomintang et l'autre, c'est le parti populaire, M. Ke Wen-je. Ils sont considérés par certains comme soutenus par le pouvoir chinois puisqu'ils veulent s'approcher plus de la Chine et en pensant que le dialogue pourrait tempérer l'appétit territorial de Pékin. Et pour eux, choisir le candidat du régime sortant, c'est de choisir la continuité de l'esprit de guerre et eux incarnent plutôt la paix. Donc en même temps, le camp de William Lai préfère s'orienter vers l'Est, vers les Occidentaux en se détournant de la Chine. Il pense que c'est la meilleure façon de subir le même sort que les Hongkongais qui n'ont pas d'autre choix que de voir leur démocratie et la liberté diminuer de jour en jour sous le chapeau d'un pays de système.
Quels peuvent être les impacts de ces élections ?
À l'heure actuelle, la victoire d'aucun parti ne va peut-être pas empêcher l'appétit de la Chine. Et la principale raison pour laquelle la Chine n'a pas encore déclenché la guerre, c'est probablement parce qu'ils n'ont pas encore la capacité de rivaliser les Américains. En tout cas, c'est ce que pense le professeur de l'université Donghua de Taïwan, M. Chen Song-Xin. Je vous propose de l'écouter.
Oui,
en fait, il a une concurrence géographique entre Washington et Pékin, et la Chine ne se soucie jamais de la capacité de Taïwan ni la volonté des Taïwanais pour leur pays. Mais ce que veut la Chine, c'est de savoir si les Américains et les Japonais vont intervenir et s'ils peuvent gagner la guerre, et quelle sera la conséquence, etc. Mais j'ajoute, contrairement à l'Ukraine, Taïwan a non seulement des productions de puces qui est très important pour le monde entier, mais aussi le détroit de Taïwan constitue également une barrière naturelle contre toutes les innovations.
Oui, de puces électroniques. Oui. L'issue des scrutins n'a peut-être pas d'importance primordiale, au moins à court terme,
à court terme
cela dit.
Probablement, hein? Donc on va encore écouter ce professeur.
On
ne peut pas prévoir le résultat, mais on ne peut pas savoir non plus l'attitude de la Chine. Mais on sait qu'on sait que n'importe qui gagne ces élections, il ne sera pas en mesure de parvenir à un meilleur accord avec la Chine. Pour ce professeur, l'orientation future de Taïwan sera déterminée par la confrontation entre la Chine et les États-Unis. Donc on attend aussi les résultats des élections présidentielles des États-Unis au mois de novembre.
Décidément, cette élection américaine qui semble être le baromètre mondial de ce qui va se passer au cours de cette année électorale 2024. Vous écoutez Accent du Monde sur RFI.
20 часов в Париже,
20 градусов.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Et la rédaction brésilienne en la personne de Lucia Mouzel pour nous parler du Brésil. Il y a donc ce rendez-vous électoral, on en a parlé, mais il y aura aussi d'autres échéances importantes. Il y a tout d'abord ce projet de loi sur les fake news, les infox, les fausses informations, en amont justement de cette future campagne électorale.
Oui, car cela fait des années que le sujet traîne au Brésil. Pour le gouvernement, l'approbation d'un projet de loi pour la transparence et la responsabilité sur les plateformes numériques est prioritaire. Entre les lobbies des big tech qui refusent davantage de régulation et les intérêts de certains partis politiques propulsés grâce à ces no man's land qui sont devenus les réseaux sociaux, le Brésil n'a toujours pas légiféré sur le sujet, contrairement à l'Europe par exemple. Maintenant, les acteurs semblent forcés à se mettre d'accord avant que la Cour suprême ne s'empare du thème, tellement il y a urgence. Orlando Silva, le rapporteur du texte actuellement analysé par la Chambre des députés, a accordé une interview à notre correspondante à Brasilia. Il rencontrera le président de l'Assemblée dès le retour des vacances d'été là-bas en février pour en discuter. On l'écoute.
É importante que a sociedade se manifeste. O debate no Brasil amadureceu sobre a regulação de plataformas digitais. A sociedade brasileira ganhou mais consciência.
Eu penso que a sociedade brasileira doit se manifester pour faire avancer cette nouvelle loi, puisque maintenant le débat a mûri, selon lui, et la société brésilienne a plus de conscience des dangers qui peuvent représenter les réseaux sociaux. Il espère que les conditions politiques pourront se mettre en place en conséquence.
Les nombreuses fake news sont responsables de la chute des vaccinations au Brésil. Or, la reprise de la campagne vaccinale est la priorité numéro un du gouvernement.
Côté santé, oui, parce que pendant longtemps, le Brésil était un pays exemplaire dans cette couverture vaccinale contre des maladies infectieuses comme la poliomyélite, la rougéole, d'autres. Mais depuis la pandémie de Covid-19 et la propagation des théories anti-vaccins en ligne, le nombre d'immunisations est tombé à des niveaux vraiment très inquiétants au Brésil. Selon l'infectiologue Paulo Sergio Ramos, aujourd'hui, ces maladies, contrôlées jusqu'il y a très peu de temps, risquent sérieusement de revenir.
Existe um risco real da reintrodução de doenças infecciosas já controladas, como a poliomielite e o sarampo.
Que dit ce médecin?
Il affirme que le Brésil subit un risque réel de réintroduction de maladies graves qui étaient contrôlées depuis des décennies. Il cite encore la tuberculose, la syphilis. D'après lui, la politique anti-vaccin du gouvernement Bolsonaro a produit un effet dévastateur, selon lui, sur la santé publique brésilienne, et ses conséquences perdureront encore pour plusieurs plusieurs années. C'est pour cela que le gouvernement actuel devra y faire face rapidement avec la plus grande fermeté. Et dans la politique interne, je mentionnerai encore, Philippe, la lutte contre la criminalité. Les chiffres restent très élevés. Plus de 170 000 Brésiliens ont perdu leur vie suite à des épisodes de violence l'année dernière, comme des vols à main armée, des homicides. C'est énorme. Des sondages ont montré que la perception des Brésiliens pointe vers une augmentation de cette sensation d'insécurité, un volet très important pour les élections aussi.
Autre chose, le Brésil va prendre la présidence du G20, le groupe des 20 pays les plus développés économiquement. Comment est-ce que le Brésil entend influencer sur les débats, profiter de cette présidence?
La priorité sera manifestement la lutte contre la faim dans le monde, pour la paix et le climat, profitant de ses bonnes relations avec l'Occident, mais en même temps avec ses opposants chinois et russes. La semaine dernière, par exemple, le ministre brésilien des Affaires étrangères, Mauro Vieira, n'a pas hésité à dire qu'il serait très content de l'éventuelle venue de Vladimir Poutine au sommet prévu à Rio en novembre. Je vous rappelle que Poutine est la cible d'un mandat d'arrêt international à cause de la guerre en Ukraine et pour cette raison, ses déplacements sont très limités. Le Brésil, pays signataire du tribunal pénal international, devrait en théorie arrêter le président russe s'il touche son sol. On s'attend certainement à des polémiques sur ce propos au cours de l'année. Et par ailleurs, le G20 sera aussi l'occasion pour le Brésil de pousser les discussions sur le multilatéralisme mondial avec l'agenda de l'élargissement du Conseil de sécurité de l'ONU en tête notamment.
Et bien évidemment, la rédaction brésilienne à laquelle vous appartenez, Lucia Mouzel, suivra cela de très près. C'est un procès qui mérite toutes les attentions. Celui de Jimmy Lai, ce démocrate de Hong Kong, vient de plaider non coupable des accusations de violation des lois sur la sécurité nationale. Ce procès est surveillé de près par la communauté internationale puisqu'il est considéré comme un test de l'indépendance judiciaire de Hong Kong et le symbole de la fin d'un pays de système, hein, promis par Pékin au moment de la rétrocession du territoire en 1997. Alors, tout d'abord, Hermine Roumilac, qu'est-ce qu'on lui reproche à cet homme ?
Avant de parler de son procès, je préfère, si vous permettez, de parler un peu de cet homme, de son parcours, qui pourra nous aider à mieux comprendre ce qu'on lui reproche. En fait, cet homme d'affaires aujourd'hui de 76 ans, c'est un réfugié du continent chinois à Hong Kong dans les années 50 pour fuir la faim de l'époque. Donc, selon la légende, il avait $1 dans la poche. Donc, il a su créer une fortune après, mais il a aussi appris à remercier Hong Kong de lui avoir tout donné. Il appréciait aussi les libertés que l'ancienne colonie britannique a pu bénéficier. Donc, il a fondé en 1995 le journal très, très populaire de Hong Kong qui s'appelle Apple Daily, qui mélange les tribunes politiques et les nouvelles extravagantes des stars, cinéma, etc. Et ça plaît à toutes les touches de population de Hong Kongais. Et à un moment donné, la distribution quotidienne du journal dépasse 700 000 exemplaires, sachant qu'il y a 7 millions d'habitants à Hong Kong, à point que le logo du journal, c'est-à-dire une pomme rouge croquée, est devenu une partie intégrale du paysage de Hong Kong et sa fortune dépassait $500 millions à un moment donné.
Alors Hong Kong ne manque pas de millionnaires, ce n'est évidemment pas le cas de l'accusé. Enfin, il est millionnaire.
Oui, il est millionnaire, mais il n'est pas accusé qu'il est millionnaire. En fait, il est accusé parce qu'il participe activement à la vie politique et il ne rate jamais les veillées de nuit pour les mémoires de mouvements démocratiques et, pour les victimes et de la place Tiananmen pour le 4 juin 1989, que Hong Kong est le seul lieu à le faire. Et selon lui, cet événement a beaucoup changé sa vie. Depuis cet événement, il fréquente des membres importants du mouvement pro-démocratique de Hong Kong. Il a commencé à critiquer sans retenue le régime totalitaire chinois. Il a décrit le secrétaire général du Parti communiste, M. Xi Jinping, comme Mao Zedong incarné et le dictateur le plus extrême de l'histoire de l'humanité. Il a été protégé à un moment donné, par la liberté d'expression de Hong Kong et de publication depuis le mouvement pro-démocratique. Et l'imposition de la loi sur la sécurité nationale à Hong Kong de 2020 et sa vie a basculé. Donc, il a été arrêté le 10 août 2020, désigné comme chef de la bande des quatre qui détruit Hong Kong par la presse chinoise, aussi pour la collision avec un pays étranger ou une force étrangère afin de mettre en danger la sécurité nationale.
Ça veut dire que Jimmy Lai, finalement, est déjà en prison depuis maintenant
fait,
plus de trois ans.
Plus de 1000 jours, oui. Et son journal a été arrêté en 2021 et le dernier numéro est daté de 24 juin 2021. Il a tiré 1 million d'exemplaires et il est disparu avec lui une époque de Hong Kong et la ville la plus libre de l'Asie et ouvre une ère sous la loi de la sécurité nationale chinoise.
Donc il a été mis en accusation. Qu'est-ce qu'il a répondu à ses chefs d'inculpation?
Alors, il a répondu non coupable à toutes les accusations.
Et la suite?
Et la suite, on saura, ce sera le 8 janvier, lundi prochain. Et on ne sait pas les issues, mais ce procès marque, comme vous avez dit, l'histoire de Hong Kong qui a tourné une page décisive.
Et le Royaume-Uni, ainsi que les États-Unis, on précise, demandent la libération de Jimmy Lai, qui est un citoyen britannique également.
Oui.
L'Union européenne, les Nations unies expriment leur inquiétude. Et bien évidemment, la rédaction chinoise de RFI, et RFI tout entière, toutes les rédactions, suit ce qui se passe de près à Hong Kong. C'était Hermine Roumilhac. L'année 2024 a commencé avec un focus sur le Mexique et tout particulièrement sur le Chiapas. Le Chiapas, c'est cet état du sud qui est aussi le plus pauvre du Mexique. Ce 1er janvier, l'armée zapatiste de Libération nationale a fêté ses 30 ans d'existence et de lutte, Malissa Amara.
Tout à fait. Chiapas étant donc l'épicentre de l'altermondialisme mexicain, le mouvement politique zapatiste a invité des milliers de sympathisants du Mexique et du monde entier pour célébrer ce 30e anniversaire de leur insurrection indigène, non loin de Ocosingo, une des municipalités prises par la guérilla le 1er janvier 1994, le jour où est entré en vigueur l'accord de libre-échange nord-américain, l'ALENA.
Alors que s'est-il passé précisément à cette date-là?
L'armée zapatiste, avec à sa tête le sous-commandant Marcos, s'est emparée de plusieurs villes. Leur objectif était un système d'autogestion anticapitaliste, le retour des terres aux indigènes et l'accès à l'éducation et aux soins de santé. Ce soulèvement a provoqué une répression militaire qui a fait plusieurs dizaines de morts. Puis, en 1996, le mouvement a signé avec le gouvernement mexicain les accords de San Andrés. Ils étaient supposés reconnaître le droit à l'autonomie des peuples indigènes et améliorer la qualité de vie de la population. Mais trois décennies plus tard, force est de constater qu'ils sont restés lettre morte.
Et la commémoration de lundi dernier a été une occasion pour que les porte-paroles du mouvement zapatiste rappellent les fondamentaux.
Et d'ailleurs, notre correspondante a assisté à ces célébrations et nous rapporte le discours du commandant Moïsès.
Y el pueblo se tiene que gobernarse en sí mismo. Eso es lo que demostramos hace 30 años.
Le peuple doit se gouverner lui-même. C'était le cas il y a 30 ans et c'est toujours le cas aujourd'hui. Le modèle altermondialiste que proposait la guérilla était novateur à l'époque au Mexique. Pendant 30 ans, ils ont maintenu des municipalités autonomes rebelles qui rejettent le budget de l'État, qui sont gérées avec leurs propres règles, comme l'interdiction de l'alcool. Ils ont aussi créé des caracoles, des centres de réunion, des lieux de démocratie participative et d'autogestion urbaine.
Alors qu'est-ce qui a permis au mouvement zapatiste de se maintenir sur trois décennies avec les mêmes dirigeants?
Selon l'écrivain mexicain Juan Villoro, proche du mouvement, c'est précisément la philosophie du zapatisme.
Lo que más me ha impresionado del zapatismo en términos de propuesta política.
Il explique que ces dirigeants n'ont jamais été assoiffés de pouvoir car le mouvement rejette le pouvoir, synonyme d'oppression et synonyme d'enrichissement personnel pour la grande majorité de la classe politique mexicaine. Et aujourd'hui, 30 ans après, l'armée zapatiste a annoncé réorganiser sa structure et son territoire. En 2023, elle a décidé la fin des municipalités autonomes. Dans un communiqué, elle pointe la présence de paramilitaires, de groupes d'autodéfense et de cartels de la drogue qui se battent pour le contrôle de cette région qui est, rappelons-le, la plus pauvre du Mexique.
Cela dit, l'armée zapatiste, ça demeure une milice armée également. Est-ce qu'elle peut, à elle seule, contenir cette violence?
Bien, dans un pays comme le Mexique, où les cartels exercent le pouvoir par la force et par la corruption dans une très grande partie du territoire, l'État de Chiapas est confronté à un risque de guerre civile, d'autant plus que cette violence, le gouvernement fédéral n'a jamais été en mesure de la contenir. Écoutons le commandant Moïsès.
Estamos solos.
Et là, quelle est son explication?
Nous sommes seuls, il déclare, et bien entendu en filigrane, il fait référence au gouvernement de Andrés Manuel López Obrador, qui l'accuse de laisser la délinquance s'installer dans la région. Voici ce qu'a répondu le président hier.
Je crois que ellos deben de hacer una autocrítica
Il retourne l'accusation et demande aux dirigeants de l'armée zapatiste de faire un bilan et une autocritique de sa gestion qui expliquerait, selon lui, la baisse de popularité du mouvement.
Alors, mouvement avec lequel il n'est pas vraiment en bon terme.
Alors, le désaccord avec la gauche au pouvoir n'est pas nouvel. Depuis plusieurs années, le mouvement zapatiste dénonce les projets d'infrastructure du président López Obrador, lancés au nom du développement du Sud, mais qui, selon les zapatistes, représentent un danger pour l'environnement.
Voilà ce qui se passe au Chiapas, au Mexique. C'était Mélissa Barra de la rédaction en espagnol, le RFI, Accent du Monde, à retrouver bien évidemment sur le site internet de Radio France Internationale. À la semaine prochaine. Ce samedi.